16h51, Raphaël, c'est une. Il y a beaucoup de journées qui sont pleines de rebondissements à Washington, mais depuis 24 heures, disons qu'on est dans une catégorie olympique.
C'en est toute une. Et ce matin, on a eu droit au nouveau chapitre de ce psychodrame dans lequel on vient d'embarquer, c'est-à-dire le lancement du processus de destitution. Donc, qu'est-ce qui s'est produit ce matin? On a eu l'administration Trump qui a dévoilé un mémo qui résume la fameuse conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien, conversation qui a eu lieu, on le rappelle, au mois de juillet, lors de laquelle, et là c'est confirmé par le mémo en question, lors de laquelle Donald Trump a évoqué la possibilité, en fait la demande, que le gouvernement ukrainien enquête directement ou indirectement sur Joe Biden et son fils en lien avec les intérêts financiers que ce dernier avait en Ukraine. Là, c'est noir sur blanc, c'est plus une question de oui-dire, de rumeurs, de spéculation, c'est confirmé par le mémo diffusé aujourd'hui.
Et d'ailleurs, Raphaël, il faut rappeler que Donald Trump, quand les médias ont commencé à sortir ça, le Washington Post en tête la semaine passée, il n'a jamais nié. Hein? Sa posture, c'était plus « ouais, ok, disons que je l'ai dit, c'est-tu vraiment grave? »
Ben, c'est, je te dirais, très cohérent avec, pour une fois, là, avec la version d'aujourd'hui de Donald Trump. C'est-à-dire, oui, j'ai parlé de Joe Biden, mais c'était dans une perspective beaucoup plus large de lutte, entre guillemets, à la corruption. Et M. Biden et son fils, à cause de choses potentiellement reprochables qu'ils auraient fait, alors que M. Biden était vice-président et que son fils faisait une fortune en Ukraine, c'était parfaitement légitime pour moi de soulever ce sujet-là. C'était loin d'être le seul sujet que j'ai soulevé lors de l'appel téléphonique avec le président ukrainien, etc. Et là-dessus, Donald Trump n'a pas entièrement tort. C'est-à-dire que, de un, c'est vrai que ce n'est pas comme si l'appel commençait avec Donald Trump qui disait « enquêter sur Joe Biden ». Et ce qui est également vrai, c'est que lorsqu'on lit le ton, et ça c'est clair là, dès les premières lignes, là, le ton est plus qu'amical. Le président ukrainien se comporte carrément en lèche-botte par rapport à Donald Trump. Écoute, je te cite un passage d'une des lignes que le président ukrainien envoie à Donald Trump. Il dit « je suis d'accord avec vous, non pas à 100%, mais à 1000%. Donc, le président ukrainien, clairement, essaie de flatter Donald Trump, de flatter l'ego de Donald Trump. Et donc, dans ce contexte-là, ça devient plus facile pour Trump de dire « j'ai pas tordu le bras de quiconque ». Regardez à quel point c'est amical comme conversation. Donc, il y a cet aspect-là.
Oui, Par contre, le contexte, Raphaël, il faut rappeler le contexte. Le Congrès avait autorisé 400 millions d'aides militaires pour l'Ukraine. C'était, et c'est la Maison-Blanche, semble-t-il, qui donnait pas le feu vert à la livraison de cette aide-là. Et là, l'appel arrive quand l'aide est encore gelée. Trump demande ça. Ben, le sous-texte, c'est quoi?
Exactement. C'est là que je m'en vais. C'est que, et selon le Washington Post, qui a fait un reportage assez saisissant dans les dernières heures là-dessus, c'est la communauté presque entière du renseignement aux États-Unis qui était consterné depuis plusieurs jours avant l'appel en question parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ces fonds-là essentiellement avaient été gelés de façon unilatérale par la Maison-Blanche. Et il n'y avait pas d'explication qui était fournie à l'interne. C'était vraiment comme s'il y avait une décision unilatérale qui avait été prise par le président et un cercle très, très, très restreint de conseillers. Pourquoi personne ne l'a vraiment su? Et c'est après coup que là, Donald Trump a évoqué dans cet appel-là la demande d'enquêter sur un rival politique américain, en l'occurrence Joe Biden. Et évidemment, c'est ça que les démocrates, eux, retiennent du mémo d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est important à dire. Et l'autre chose qui est également extrêmement importante à dire, et je t'en ai parlé hier, je te le redis aujourd'hui, cet appel-là, ce résumé d'appel-là, c'est une chose, mais ce n'est pas la totalité de la situation. C'est-à-dire que dans la plainte du fameux lanceur d'alerte, oui, il y avait la question de l'appel, mais il y avait d'autres accusations qui étaient lancées contre Donald Trump. Et le lanceur d'alerte a exprimé par le biais de son avocat très clairement au courant des dernières heures qu'il voulait s'entretenir avec les membres du Congrès pour justement détailler ses plaintes. Non pas sa plainte, mais ses plaintes. Ça, c'est intéressant. Et on a appris que, dans les dernières minutes, là, que d'ici demain, la Maison-Blanche allait fournir au Congrès tout au moins une version de la plainte en question du lanceur d'alerte.
Donc, est-ce qu'on va savoir ce qu'il y a dans la plainte ou ça va être gardé, disons, de manière confidentielle par les élus du Congrès, ça?
Pour l'instant, les seules personnes qui auraient accès, je dis bien pour l'instant, ça serait certains membres de comités spéciaux de la Chambre et du Sénat, surtout les comités, évidemment, sur les renseignements. Donc, normalement, lorsque c'est comme ça qu'on opère, c'est gardé à huis clos. Mais le sujet est tellement explosif et il y a tellement de pression qui va être mise sur la Maison-Blanche pour qu'on partage de façon plus large et surtout de façon plus intégrale la plainte en question, que c'est sûr et certain que si on a seulement une version partielle qui est diffusée à une partie du Congrès demain, ça ne sera pas la fin de la ligne. Ça, c'est sûr et certain.
Là. C'est sûr et certain. Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. On va continuer à suivre cette histoire-là qui est pleine de rebondissements qui va encore donner. Et là, je vois M. Trump qui dit quoi? Qui dit « Aucun président ne devrait être traité comme j'ai été traité ».